France Culture.
On fait donc le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Plus que quelques heures avant que François Bayrou ne prononce sa déclaration de politique générale et ne soit contraint de dévoiler enfin son jeu pour tenter d'éviter la censure. On tâchera de savoir de quelle carte dispose donc encore le Premier ministre. Avec notre invité aujourd'hui, le recteur de Mayotte, on parlera des difficultés d'assurer la rentrée scolaire sur l'archipel un mois jour pour jour après le passage des du cyclone Chido. On s'intéressera également à ce que beaucoup considèrent comme un gros mot, dividende, après que les entreprises du CAC 40 ont enregistré un record l'an dernier. Enfin, on détaillera le rapport accablant contre Donald Trump, coupable d'avoir tenté de renverser le résultat du scrutin de 2020, mais qui, en retournant à la Maison Blanche lundi prochain, échappera finalement à la case justice. Qui pour sauver le soldat Bayrou? C'est donc cet après-midi que le Premier ministre doit dévoiler sa feuille de route politique et budgétaire, un discours de politique générale à mots pesés et qui devra tenter de résoudre une équation qui semble aujourd'hui encore quasi insoluble. D'un côté, concéder des gages à la gauche, non mélenchoniste, sous peine de la précipiter dans les bras de la censure, et de l'autre, s'éviter de froisser ses alliés du camp présidentiel, mais plus encore de la droite traditionnelle qui, privée désormais de son représentant en chef à Matignon, a déjà fait savoir qu'elle n'accorderait pas un soutien automatique au nouveau gouvernement. Quoi qu'il en soit, et au vu des dernières tractations, le suspense reste entier. Seule quasi-certitude, une motion de censure devrait être déposée aujourd'hui même par les Insoumis, dans la foulée de la déclaration de politique générale, et quand bien même, faute de soutien a priori du Rassemblement National, le gouvernement ne devrait pas tomber dans l'immédiat, l'incapacité, le cas échéant, de François Bayrou à rallier une coalition jettera nécessairement un doute sur la pérennité de son gouvernement, lequel, à l'instar de son prédécesseur, pourrait rapidement se heurter ensuite au mur du vote du budget, toujours en cours de négociation. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, se voulait optimiste, estimant qu'un accord était possible sur la question justement du budget, plus particulièrement s'agissant de la réforme des retraites. Or, quelques heures plus tôt, le secrétaire général du parti, Pierre Jouvet, estimait lui que les propositions sur la table n'étaient pas acceptables. Que faut-il comprendre?
Eh bien déjà qu'hier soir, effectivement, nous étions très loin d'un accord entre François Bayrou et le Parti Socialiste. C'est ce qu'a expliqué, un peu avant 23h, sur BFM TV, le bras droit d'Olivier Faure au PS, le député européen Pierre Jouvet.
Quand vous discutez avec le Premier ministre et qu'il ne vous dit pas clairement s'il annoncera ou non une suspension de la réforme des retraites, et qu'il repousse le débat en disant qu'il y aura peut-être, après une conférence sociale, voilà, si elle n'est pas conclusive, une nouvelle discussion qui aura lieu en octobre ou en 2026, ce n'est pas acceptable.
Ce matin, changement de ton et de discours, Olivier Faure était beaucoup plus optimiste.
Je pense que nous pouvons conclure.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, toujours sur BFM TV, a brièvement fait état de ses échanges avec François Bayrou.
Pour tout vous raconter, au moment où nous nous sommes quittés à 20h, il n'y avait toujours pas d'accord, et nous leur avons dit que si ça restait en l'état, nous serions obligés de censurer. Nous avons continué à discuter après ce rendez-vous. Alors cette fois-ci, plus en visuel, nous étions au téléphone et nous avons fait une proposition que je ne peux pas dévoiler parce que, d'abord, si le Premier ministre l'accepte définitivement, eh bien, c'est à lui de l'annoncer. Et parce qu'il y a aussi la volonté d'avoir cet accord, non pas simplement avec les partis politiques, mais aussi avoir l'accord des partenaires sociaux.
Il faut donc désormais attendre 15h et la déclaration de politique générale pour en savoir plus. On sait toutefois, selon des indiscrétions rapportées il y a quelques minutes, que François Bayrou ne devrait pas annoncer l'abrogation ni même la suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre s'est invité ce matin à une réunion des députés du camp présidentiel à l'Assemblée nationale et c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a également expliqué qu'il devrait annoncer une renégociation de cette réforme avec les partenaires sociaux sur une période de quelques mois d'ici l'été prochain. Avec quel cahier des charges, quelle marge de manœuvre, y aura-t-il d'autres dispositions susceptibles d'amadouer les députés socialistes? Toutes ces questions à ce stade restent en suspens et devraient trouver réponse dans le courant de l'après-midi.
Merci Stéphane Robert. Le texte devait être adopté sans difficulté dès hier et pourtant les députés devront à nouveau se réunir ce soir pour terminer l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, avec notamment en toile de fond des débats la sensible question migratoire, bien que remise à plus tard. Le texte devra ensuite être dévoilé débattu dans l'hémicycle à partir du 20 janvier avant que le Sénat ne s'en empare à son tour le 3 février.
Et en attendant, les Mahorais, eux, n'en ont pas fini avec les intempéries.
Non, après le passage du cyclone Chido suivi de la tempête tropicale, Dikeledi, un autre phénomène, certes habituel mais potentiellement dangereux, menace désormais l'archipel. Le Kashkazi, un événement de mousson avec des précipitations très importantes sur un territoire déjà fragilisé. Sans compter qu'un mois jour pour jour après la catastrophe, les conditions de vie sur place restent toujours extrêmement précaires. Entre débrouille et frustration, en témoigne la quête éperdue ces derniers jours de l'un des matériaux les plus convoités aujourd'hui de l'île, la tôle ondulée. Depuis que le cyclone a violemment soufflé les habitations, celle-ci est devenue une denrée rare, d'autant que la préfecture a pris un arrêté pour restreindre sa vente aux professionnels et aux particuliers sur présentation d'un justificatif d'identité et de domicile, manière d'empêcher la reconstruction des bidonvilles où s'entassent majoritairement les étrangers en situation irrégulière. C'est en tous les cas ce qu'ont pu constater sur place nos envoyés spéciaux Béatrice Duguay et Fabien Gosset. Reportage.
Ces tôles, elles ont fini froissées comme du papier, déchirées, en équilibre instable sur les toits ou bien perdues dans les champs, enroulées même dans les arbres. Ahmad vient d'en recycler quelques-unes pour protéger son canapé du soleil au beau milieu de sa rue dans le bidonville de Tsapéré.
Il n'y a pas d'arbres en Mayotte, il n'y a pas d'ombre, c'est tout arraché. J'ai installé un petit banga que je me couvre de soleil.
Des tôles, des vraies, intactes, difficile d'en trouver en ce moment.
Il n'y a que les entreprises qui peuvent avoir des tôles. Mais nous, on ne vit pas dans une maison en béton, nous, on n'a pas le droit d'avoir les tôles.
Monsieur Djoudjou, quincaillier à Tsapéré depuis plus de 20 ans, confirme.
J'avais la queue ici, mais les gens ils pleuraient, les gens ils disaient mais patron, commander des tôles. J'ai dit moi je peux pas, j'ai pas le droit. Vous n'avez pas entendu le préfet, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas faire autrement.
Et ça ne le réjouit pas, lui qui réalise 10 à 15% de son chiffre d'affaires avec des tôles. Ces grandes là, spéciales toitures pour maisons en dur, sont réservées aux professionnels. Et elle coûte plus cher.
Mais même pour le Mahoré, il crie quand il voit le prix.
80 euros contre 30 euros les petites. De quoi encourager la débrouille, dit Ahmad.
J'en trouve. Là, tu dois passer dans un chemin que...
Marché noir ?
Voilà. Pour avoir des tôles, pour construire quand même.
La mesure vise à éviter la reconstruction de l'habitat insalubre, autrement dit les bangas. Efficacité limitée.
Un reportage à Mayotte signé Béatrice Duguay. Autre signe de ce que la vie n'a pas encore totalement repris ses droits sur l'archipel. La rentrée scolaire retardée de 24 heures et qui devait avoir lieu aujourd'hui a finalement été reportée. Sans date annoncée pour l'instant, elle n'aura pas lieu avant la semaine prochaine au plus tôt pour les enseignants et plus tard encore pour les élèves. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui en direct de l'île dévastée, le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dans un courrier adressé donc hier au personnel de l'Académie, la ministre Elisabeth Borne a annoncé un nouveau report de la rentrée. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Aurait-il été précipité d'organiser une rentrée administrative aujourd'hui ?
Oui, je pense, surtout avec le week-end qu'on vient de passer. Et ça répond aux attentes des personnels, et ça répond également aux attentes des maires qui avait fait cette demande, et donc la ministre a été très à l'écoute de ces demandes, c'est très important. Encore ce matin, j'étais avec les personnels de direction, ils demandent du temps, tout simplement pour remettre en ordre les établissements, et puis aussi, il va falloir remettre en ordre l'état d'esprit des enseignants, qui sont tous aussi avec un certain traumatisme à niveau variable, qu'il va falloir... évacuer.
On va y revenir. Le 20 décembre dernier, c'est-à-dire une semaine à peu près après le passage du cyclone sur l'île, on estimait que 40% des 250 établissements scolaires étaient inutilisables du fait des dégâts qu'ils avaient subis. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Alors, avant le passage de Dikeledi, donc vendredi dernier, on a pu faire un diagnostic relativement précis. Sur 221 écoles administratives, je dis écoles administratives parce qu'on a beaucoup d'écoles qui sont en rotation. Donc dans un bâtiment, il y a deux écoles en fait. On avait 39 écoles qui étaient en incapacité de fonctionner. Voilà. Et sur l'ensemble de nos 33 établissements scolaires, collèges et lycées, qui sont des très très gros établissements scolaires, plus de 1500 élèves en moyenne par collège et plus de 2400 par lycée. On a 5 établissements qui sont significativement impactés. Tous pourront accueillir, mais les 5 que j'évoque ne pourront pas accueillir à jauge complète. donc nécessiteront des adaptations pédagogiques significatives.
Alors justement, concrètement, comment vos services préparent-ils cette rentrée scolaire dont la date, je le rappelle, n'a donc toujours pas encore été déterminée ?
Alors, à plusieurs niveaux. Le premier qui est indispensable à la rouverture, c'est de satisfaire aux éléments de sécurité passive, à savoir la reconstitution des enceintes. C'est quelque chose d'impératif pour sécuriser à la fois les locaux et les personnels à l'intérieur des locaux. Et puis l'ensemble de la sécurisation des toitures, des faux plafonds, etc., ainsi que du système électrique. Avec ces pluies, ça a été significativement endommagé. Et d'avoir l'ensemble des éléments aussi de secours nécessaires aux établissements recevant du public, à savoir des extincteurs. On a plus de 500 extincteurs qui devraient arriver d'ici demain sur l'île pour être ventilés dans les établissements scolaires. Et le passage indispensable d'une commission de prévention de spécialistes. On a en renfort les sapeurs-pompiers de Paris, notamment, et des préventionnistes qui vont émettre un avis, justement, pour éviter le suraccident, et on ne le souhaite pas, pour que toutes les salles qu'on a identifiées comme acceptables, même en mode dégradé, va falloir se représenter ça. Ça sera peut-être un toit avec une bâche, ça sera forcément des carreaux qui sont abîmés ou une porte qui ferme pas bien. Donc l'environnement sera dégradé. Mais on espère pouvoir accueillir tous les élèves, mais avec un système pédagogique vraiment adapté. Le deuxième niveau, il est bien sûr pédagogique. Donc des rotations pour les élèves du premier degré qui les connaissent déjà. Donc sans doute on va devoir dans certains cas les renforcer. Au sein d'une commune, déplacer aussi des élèves d'une école qui ne pourra pas ouvrir vers une autre école. Et puis au niveau du second degré, sur nos établissements significativement impactés, c'est le système des rotations qui va être enrichi par les apports CNED, Canopé, l'UNI et puis du tutorat. On a un gros soutien de la région académique, enfin du conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui propose un tutorat d'accompagnement pour nos élèves en classe diplômante. Donc on va renforcer l'accompagnement de nos élèves par toute une somme de dispositifs et on espère qu'en qualité, on sera au rendez-vous.
Monsieur Mikulovic, vous l'évoquiez d'un mot tout à l'heure, le moral des enseignants, une partie d'entre eux venus de la Réunion ou de Métropole pour exercer à Mayotte, a quitté l'île, d'où la crainte à présent que certains pourraient choisir de ne pas revenir sur place. Est-ce que vous craignez que le personnel de l'éducation fasse défaut ?
Alors non, je le craignais pas forcément jusqu'à vendredi dernier. Et c'est vrai que cet événement climatique supplémentaire a tendance à avoir un impact sur le moral. Ce qui mine le plus, en fait, les enseignants qui sont partis, c'est leur logement d'habitation qui n'a pas encore été réparé et dont les propriétaires n'ont pas pu entamer les travaux pour remettre un toit, tout simplement. Donc la grosse difficulté, elle est à ce niveau-là. Néanmoins, parmi les retours que l'on a et puis les retours qui sont effectifs maintenant malgré les difficultés de transport puisque l'aéroport était fermé jusqu'à hier, on aura une grosse majorité des enseignants présents sur le territoire qui se sont engagés Mayotte pour aussi donner sens à leur métier parce qu'il fait pleinement sens ici en tout cas pour les enseignants qui s'y inscrivent. Donc voilà, maintenant on manquait quand même d'enseignants, donc on aura sans doute quelques pertes, mais ça ne sera pas aussi significatif que certains s'en alarment.
C'est noté. Merci Jacques Mikulovic, donc recteur de Mayotte, d'avoir répondu en direct depuis Lille ce midi à notre invitation et merci également à Aloïs Guérin pour la préparation.
À quelques heures du discours de politique générale de François Bayrou et en plein débat sur l'état de décrépitude des finances publiques, voilà une nouvelle qui risque de faire grincer des dents.
Oui, les entreprises du CAC 40, comprenez les 40 fleurons de la bourse parisienne, mais qui réalisent les trois quarts de leur activité à l'international, ont versé l'an dernier près de 100 milliards de dividendes, soit un niveau jamais atteint, un record que l'on pourrait même étendre en réalité à tous les groupes cotés du vieux continent. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors s'agissant de la France, et sans surprise, c'est le groupe Total Energy, Camille, qui ressort en tête comme la société la plus généreuse, du moins avec ses actionnaires.
Oui, Total Energy qui a distribué pour l'année 2020 2024, 14 milliards d'euros à ses actionnaires, choyés, on peut le dire, pour compenser le fait que la valorisation en bourse de la multinationale française est bien moins importante que celle de ses principaux concurrents américains. Derrière, on retrouve LVMH, Stellantis, BNP et AXA, avec de gros écarts entre le sommet du classement et le reste du CAC 40, puisque les 7 sociétés les plus généreuses concentrent la moitié des versements de dividendes. On notera cette année une baisse des rachats d'actions, un autre mécanisme financier permettant aux entreprises de redistribuer leurs bénéfices à leurs actionnaires, et que le projet de loi de finances 2025 avait prévu de taxer pour les plus grands groupes. Mais selon le cabinet Allianz GI, les versements de dividendes, eux, devraient continuer à augmenter ces deux prochaines années en France et en Europe, même si notre continent voit sa réindustrialisation marquer le pas et peine à attirer les investisseurs. Et en France, ces largesses n'en finissent pas d'interroger quand les entreprises qui soignent leurs cours en bourse et donc leurs actionnaires suppriment en parallèle des emplois et demandent plus de sacrifices à leurs salariés. Mention spéciale cette année à Decathlon qui a choisi de verser 1 milliard d'euros de dividendes à la famille Mullier, propriétaire des magasins Auchan, où un plan social est en cours avec suppression annoncée de 2400 emplois.
Merci Camille Magnard.
Je ne peux ignorer ce que je perçois comme une attitude hypocrite de la France.
Les mots sont signés de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, celle qui s'est fait mondialement connaître avec la bande dessinée. Puis le film Persepolis avait été promu l'été dernier au rang de chevalier de la Légion d'honneur, une décoration qu'elle a finalement décidé de décliner en raison de ses principes et de son attachement à sa patrie de naissance, explique-t-elle dans un courrier adressé hier à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour.
L'artiste dit ne pas comprendre la politique de la France vis-à-vis de l'Iran et en particulier dans l'attribution de visas.
Oui, dans une vidéo d'explication publiée quelques heures après ce courrier à la ministre, Marjane Satrapi dénonce le deux poids, deux mesures des autorités françaises vis-à-vis des ressortissants iraniens.
Alors que des jeunes Iraniens épris de liberté, des dissidents, des artistes, se voient refuser des visas, même des toutes petites visas de touristes, vous avez les enfants des oligarques iraniens qui se baladent à Paris comme à Saint-Tropez sans que cela pose aucun problème.
Alors, je crois qu'on a un problème de micro. Est-ce qu'on pourrait entendre Mathilde ?
Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon micro. Ce refus donc de la Légion d'honneur n'est pas du tout un geste contre la France, se précise l'auteur de Persepolis, qui réaffirme par ailleurs son amour pour le pays qu'il a accueilli en 94. Simplement, dit-elle, le soutien à la Révolution ne peut pas se limiter à quelques photos sur les réseaux le 16 septembre, anniversaire de la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour mauvais port du voile.
Les Iraniens n'ont pas besoin de communication. Nous avons besoin d'actions concrètes.
Des actions concrètes, c'est-à-dire accorder des visas ou le droit d'asile aux ressortissants iraniens menacés. Il y a eu 612 demandes d'asile en 2023, selon le dernier rapport de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, mais aussi des efforts diplomatiques pour la libération des otages. On entendait hier l'appel à l'aide d'Olivier Grondeau, le troisième Français détenu à Téhéran. Le Quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris vendredi dernier pour exiger de nouveau sa libération, ainsi que celle de Cécile Kohler et de Jacques Paris.
Merci Mathilde.
Midi et 48 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
La toute première audience du procès en destitution du président sud-coréen n'aura finalement duré que quelques minutes à peine. Yoon Suk-yeol, suspendu pour avoir essayé d'imposer la loi martiale, est toujours barricadé dans sa résidence, ne s'est pas présenté ce matin. La juridiction a désormais jusqu'à la mi-juin pour confirmer sa déchéance définitive ou imposer son retour au pouvoir.
Lui aurait pu être condamné par la justice s'il n'avait pas été réélu 4 ans plus tard à la fonction suprême.
Oui, selon un rapport du procureur spécial publié ce matin par les médias américains, Donald Trump s'est bel et bien engagé dans un effort criminel sans précédent pour se maintenir au pouvoir après avoir perdu l'élection de 2020. Le rapport accable en détail un acte d'accusation en 4 volets dans des termes sans appel, sauf que la victoire en novembre dernier du milliardaire aura donc empêché au final le procureur de porter l'affaire devant les tribunaux. Explication de Nathanaël Charbonnier.
Alors la justice a estimé que les preuves étaient suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation lors d'un procès, mais voilà, l'élection de Donald Trump et son retour imminent à la présidence ont empêché une telle issue. Et le procureur de justifier avec le droit sa position et de rappeler que la Constitution interdit l'inculpation et la poursuite d'un président, un principe qui ne dépend pas de la gravité des crimes reprochés ou du bien fondé de la poursuite. Par ailleurs, le texte affirme que Trump et ses co-conspirateurs avaient prévu de faire des certificats frauduleux d'électeurs dans cet État ou encore qu'il a violé plusieurs lois pénales fédérales. Et pourtant, Donald Trump va pouvoir retrouver le bureau ovale de la Maison-Blanche sans condamnation malgré une culpabilité établie, d'où sa réponse virulente, puisque le 47e président à venir des États-Unis a qualifié le procureur de dérangé qui a produit, je cite, de fausses conclusions.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil sur la majeure partie du territoire. Quant aux températures, elles restent fraîches, comprises entre 1 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.